Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Bonjour à tous les amis du vin et de la modération. Bienvenue chez Fauchon à Paris, place de la Madeleine pour une heure de plaisir avec au menu l'appellation Châteauneuf-du-Pape, le concours de Victoria en Australie, le Vino Quiz qui va permettre à l'un d'entre vous de gagner un exemplaire du Guide des grands amateurs de vin 2011 édité au Cherche Midi, le classement du repas gastronomique français au patrimoine de l'UNESCO, Cocorico, une rencontre avec le chef Alain Dudournier, deux étoiles du Carré des Feuillants à Paris, et bien sûr toute l'actualité mondiale des vins et spiritueux en compagnie de Philippe Forbrack, David Cobold, Bernard Burchi et Jean-Robert Pitt. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Philippe Forbrack, nous le savons, vous êtes notamment meilleur sommelier du monde. Un commentaire sur l'année 1954.
C'est une année qui a eu connu un hiver très rigoureux. C'est vrai qu'on est assez bien parti en hiver rigoureux cette année aussi. Donc c'est une année moyenne en général. Dans le Bordelais, c'était même un peu moins bien que moyen. Et en Bourgogne, on a tiré un peu l'épingle du jeu parce que les vendanges sont passées dans d'assez bonnes conditions. Globalement, c'est une année avec pas mal de rendements, mais des vins qui sont déjà maintenant largement bu pour la plupart.
C'est bien, vous êtes
si
poli,
on en a encore, il vaut mieux les garder parce que finalement, ils ne s'amélioreront pas.
Bon, d'accord. Voilà. Quelques people qui sont nés en 54.
Oui, Philippe. John Travolta, Didier Barbelivien, Kathleen Turner, n'est-ce pas, James Cameron. Didier Six, le footballeur, Bernard Hinault, le cycliste, ou encore François Hollande.
Et vous avez José Pérez dans votre liste de people,
politique. Ou pas ? Et José Pérez.
Notre premier invité, José Pérez, le président de ADS Consultant. Bonjour José.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes né à Santiago du Chili, on va sentir un petit accent sympathique. Études de psychologie, puis en France le CNAM et un DESS de management de l'information. Sachant qu'il paraît que votre premier job en France était coursier à l'ambassade du Chili.
Et c'est exact, oui. Quand je suis arrivé en France, n'ayant pas ni des papiers ni du boulot, je me suis rapproché de l'ambassade.
Vous n'aviez pas de papiers ?
Ben non, j'étais étudiant. Donc j'ai pu obtenir un travail au niveau de l'ambassade du Chili en tant que coursier au départ.
Et après, donc en 2007, vous allez racheter 100% des parts de votre entreprise ADS Consultant. Vous nous rappelez le métier de cette PME ?
Eh bien, cette PME s'occupe d'accompagner les entreprises, les grands groupes, notamment la banque, dans l'optimisation des processus, la maîtrise d'ouvrage des projets et puis la qualité de données, essentiellement.
Et quelques clients, peut-être, vous citez les banquiers, mais il y en a d'autres également.
On a la santé également, on a l'immobilier et aussi l'industrie.
Et dans quelques jours, vous allez célébrer les 15 ans de l'entreprise avec un objectif ambitieux, multiplié par 2 votre taille.
Eh bien, on a fixé comme objectif ADS 2014 de faire le double des chiffres d'affaires.
Croissance interne, externe, vous allez racheter les gens ?
On essaye, on apprend ça. On a eu aujourd'hui même un premier rendez-vous pour essayer de racheter une
petite boîte. Vous travaillez le week-end, vous aussi, vous avez raison, c'est bien
personne.
Ça.
Oui. Oui, je comprends, oui.
Bien sûr. Et alors, il paraît toujours. Qu'après le concept du sleeping partner, vous avez inventé le concept du star partner.
Ah oui, ça c'est très important pour nous. On a constitué un groupe de ce que j'appelle les consultants majeurs, comme les majeurs des grandes écoles, c'est les meilleurs, et qui se sont attachés à ADS parce qu'on les connaît depuis longtemps et qui constituent notre groupe des star partenaires.
Vous en avez combien aujourd'hui ?
On en a 5 signés, on va dire, et 5 candidats, mais ça commence à être beaucoup. Et il va falloir créer le comité des sages, parce qu'il va falloir différencier un peu entre ceux qui sont plus anciens et ceux qui sont plus jeunes ou plus juniors.
Et vous êtes content ? Elles brillent, vos stars, tout va bien ?
Ah ben c'est magnifique, parce que ça nous donne accès à des services de très haut niveau pour les entreprises, conseil à direction générale, management des grands projets, et un carnet d'adresses que nous, on n'a pas.
Alors, vous êtes chilien. Un petit mot peut-être sur le business entre la France et le Chili, parce que, visiblement, à l'exception du vin et du métro, on n'est pas très bons, nous, Français. Remarquez-vous non plus, les Chiliens.
Eh bien, si, les Chiliens ils travaillent beaucoup plus avec l'Angleterre, je dirais, qu'avec la France. Je ne sais pas pourquoi. Malgré qu'il y a l'esprit Batignolles, je ne sais pas si ça s'appelle toujours l'esprit Batignolles, qui est toujours implanté à Santiago depuis l'installation du métro en 73.
Je sais, José Pérez, que vous écoutez chaque week-end Invino BFM sur BFM Business à Paris 96.4. Côté vin, il paraît que votre papa était dans le raisin de raisin, dans le raisin tout court.
Mon père était agriculteur, donc je suis né dans les vignes qui connaît mon ami David, Los Vascos, dans la province de Colchagua. Et donc, j'ai toujours vécu en regardant le ciel pour savoir s'il allait geler ou pas, si les degrés d'alcool allaient monter ou pas.
C'est haut d'ailleurs cette province ?
Non, c'est pas très haut. Non, c'est une vallée.
Il y a des chalets proches du Pacifique. L'océan, je rappelle, est très très fraîche.
Et il peut y avoir des gelées. D'ailleurs, beaucoup de vignobles installent des sortes d'hélices pour faire bouger l'air froid, pour empêcher le gel de printemps.
Alors, on parle un peu de ce vignoble chilien. Jean-Bert Pitt, vous connaissez ?
Je n'ai jamais visité, j'ai goûté des très très bonnes choses. Et les paysages, ce que j'en ai vu en photographie, me donnent vraiment envie d'y aller. Des paysages prodigieux avec la cordillère qui est derrière, c'est magnifique.
C'est le seul pays du vin, on ne peut pas se perdre. Parce que si les montagnes sont à droite, on va vers le nord. S'ils sont à gauche, on va vers le sud. Donc, c'est très simple.
Y compris les Anglais, personne ne se perd.
Même un Anglais ne peut pas se perdre.
Bernard Burchi, qualitativement parlant, donc ces vins du Chili, on dit parfois que ce sont des concurrents, de sérieux concurrents, des vins du Bordelais, vous confirmez ?
Ah, je crois qu'on fait des très grands vins, en particulier des très grands vins rouges. Là, par exemple, il y a Clos Apalta qui est donc quand même un des très grands vins mondiaux. Hein, donc ici, il ne faut pas se tromper. Donc on est vraiment dans des vins de tout premier ordre. Ah, donc ici, les blancs sont un peu plus technologiques. On a encore un peu de mal à trouver.
Technologique, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est un compliment dans votre bouche ?
C'est pas un compliment, c'est une caractéristique. C'est-à-dire qu'en fait, on est surtout sur la manière d'élaborer avant de trouver l'empreinte à la fois du terroir, donc du lieu. Donc on a des vins qui n'ont pas vraiment de personnalité. C'est-à-dire qu'on va trouver un peu partout à l'identique dans le monde entier, ce qui n'est pas une tare, hein, donc ici, donc, sauf qu'on va causer coût de production. Et aujourd'hui, un vin technologique sur le marché mondial, bah, ça se vend 3 dollars la bouteille. Son coût de production, c'est 1 dollar le litre.
José Pérez, le prix moyen, justement, le taux horaire, par exemple, au Chili, on est autour de combien mensuel, par exemple ? Combien on gagne au Chili ?
300 000 pesos, ce qui est 500 euros.
500 euros, donc il y a quand même une sacrée différence. Philippe Forbrack, donc vous connaissez bien les vins du monde entier, le Chili, ça vous émeut ?
Ça m'émeut, j'y suis allé cette année, puisque le concours du meilleur sommelier du monde avait lieu au mois d'avril à Santiago du Chili, et organisé d'ailleurs de main de maître, quelques temps après le fameux tremblement de terre, par nos amis chiliens de l'association. On a visité pratiquement toutes les plus grandes régions viticoles, on est allé dans la Concagua, au pied de la Concagua, des régions magnifiques. On est descendu sur la vallée de la Maule, Maipo, Curico, Central Vallée. Effectivement, les rouges sont traditionnellement bons, on le sait depuis longtemps, avec un cépage qui s'appelle le Carmenère.
C'est local ou pas, Philippe ?
C'est un cépage originaire du Bordelais, qu'on a souvent confondu avec du Merlot, et qui finalement est identifié comme étant ce cépage Carmenère, un vieux cépage donc originaire du Sud-Ouest, et qui donne des résultats extrêmement originaux, identifiables comme aujourd'hui étant la principale personnalité des vins rouges chiliens. Et les blancs, effectivement, David en parlait tout à l'heure, et Bernard Butier également, ils ont ce côté effectivement un peu technique, mais on plante des vignobles aujourd'hui plus près effectivement de l'océan, dans les endroits comme Casablanca ou l'Aïda Valley, dans lesquels les climats plus frais permettent de préserver ce qui est indispensable pour les blancs, c'est-à-dire une fraîcheur qui renforce un peu la minéralité. Donc on a des Sauvignons, des Chardonnays qui sont effectivement issus de climats plus frais et donc plus équilibrés.
Donc à découvrir en résumé.
Exactement.
José Pérez, on vient vers vous. Donc vous êtes le patron de ADS Consultant, mais vous avez également investi, ça c'est important pour le directeur de Invino BFM, dans une poissonnerie à Paris.
Ah oui, ça c'est une aventure nouvelle, complètement.
Alors racontez-nous.
Les anchois du Chili.
Non, mais c'est... J'ai investi en fait sur deux bons hommes qui sont des Bretons qui sont en bas de chez moi et qui ont une poissonnerie, qui sont tous les matins à 7h au boulot, les mains dans la glace, à 2h du matin à Rungis, et puis ils avaient besoin d'un coup de main pour redémarrer leur business. Et donc on a l'archipel des mers, 8 rue de Vasco de Gama.
Le meilleur poisson de Paris.
Le meilleur poisson de Paris. Et ça va être la fête pour Noël, on va envahir toute la rue, ça va être superbe.
Excellent, non mais c'est quand même original la maison de poissonnerie. Et alors avec les vins, avec le poisson, David Cobol, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Est-ce que forcément le vin est blanc ?
Oui, très très majoritairement. On peut évidemment boire des rouges, il vaut mieux éviter des rouges tanniques, des rouges souples.
Une matelote d'anguille,
oui,
il faut
évidemment,
quand même un rouge
si on cherche la petite bête et le poisson cuit dans une sauce de vin rouge, bien sûr, ou la lamproie à la bordelaise qui est cuit dans du vin de Bordeaux, donc on va prendre le même vin. Mais globalement, le poisson et le vin blanc, ça va bien, c'est pas une règle absolue. D'ailleurs, je crois pas tellement à des règles absolues en matière d'accord mets vins. Je crois qu'il faut boire ce qu'on a envie de boire, avec ce qu'on a envie de manger, avec quelques exceptions.
Philippe Orbach,
après, il faut graduer le blanc en fonction de l'intensité. Globalement, la règle, ça serait plus le goût est fort, et ben plus le goût du vin doit être fort pour correspondre. C'est une question d'équivalence de poids.
Philippe Orbach,
il y a une petite règle qui est dans la couleur, finalement. Si le plat est blanc, le poisson est blanc et que la sauce est blanche, allez sur du vin blanc. Si ça se colore, si ça se corse, si on fait une sauce au vin rouge, bien entendu, la question se pose moins, on va faire du vin rouge. Si on fait une sauce brune, exactement, si on a une sauce brune, on peut faire une lotte rôtie, par exemple, avec un jus de volaille ou avec quelques champignons. On aura un plat brun, on va plutôt aller vers un vin intermédiaire, un Bourgogne, par exemple, rouge, un peu tendre, on va très bien. La règle, règles de l'association à la couleur.
Et Jean-Robert Pitt,
je suggère les crustacés rôtis avec la bisque de homard si on en trouve, ou d'autres choses, avec les vins liquoreux, parce que c'est un mariage qui est très joli.
Bon, donc en tout cas, on a découvert aujourd'hui à Paris, hein, pour tous les auditeurs de la capitale sur 96.4, la poissonnerie à ne pas louper pour les fêtes de fin d'année. Vous, à titre personnel, José Pérez, vous êtes plutôt Calvados, Cognac ou Armagnac, ou rien du tout d'ailleurs?
Pas tellement dans les... Plutôt dans le vin.
Plutôt dans le vin. Alors, on m'a parlé d'une balade sympa du côté du château de Meursault. C'est une belle région, c'est un beau domaine, ça.
Ah oui, le château de Meursault, ça, c'est une vieille balade. On a assisté à la fête de la Bannée dans le château de Meursault. C'est quelque chose d'impressionnant parce qu'il y a tous les vignerons qui viennent avec toutes leurs bouteilles et chacun il peut goûter différentes bouteilles. C'est très impressionnant.
Bernard Burchi, Meursault, bien belle région.
C'est une belle, effectivement, région, donc qui fait surtout des blancs, d'ailleurs. Donc des blancs, d'ailleurs, assez divers, parce qu'on a l'image du Meursault assez gras, qui se produit plutôt vers le bas, hein, donc de Meursault. Donc, mais il y a aussi des Meursault très élégants. Plus on va monter vers la colline, plus vers les Perrières, en plus on va avoir de la minéralité, donc on va avoir des styles assez différents.
Mais ça coûte, d'ailleurs, une bouteille de Meursault, on va rappeler, là, ça peut donner des idées pendant 15 jours pour Noël.
Meursault, c'est quand même très connu dans le monde entier, donc à moins de 20 euros, c'est assez difficile de trouver un bon Meursault. Enfin, en tout cas, on appelle 15 euros, c'est l'entrée. C'est l'entrée.
Voilà. Autour de 15 euros minimum, vous dites, hein, minimum. Quoi. Oui, Jeunet Pérez, vous êtes personnel, indépendamment du poisson, bien sûr, vous aimez cuisiner d'autres plats ou pas?
Eh ben, en ce moment, je suis toujours dans le poisson.
Vous n'avez pas le choix, c'est en bas de chez vous.
J'ai pas le choix, je descends, je prends et je cuisine.
Donc, vous avez un poisson favori?
Ben, j'aime beaucoup la lotte, tous les poissons, hein, ils sont très bons. Hein, la dorade, une bonne dorade, c'est excellent. Et une lotte, un Saint-Pierre,
Un anchois. Le Chili est le premier producteur au monde d'anchois. Ouais,
c'est plus à Collioure, ça, j'étais très triste d'apprendre ça.
Au Chili, c'est les oursins.
Les oursins.
Los locos.
Et pour terminer, donc, le vin qui vous a le plus ému, est-ce qu'il y a une bouteille dont vous vous souvenez, vous dites ça, c'est the bouteille de ma vie?
C'est une bouteille de Lalande Pomerol 61.
Merci José Pérez, bon vent pour vos multiples projets, pour cette PME ADS Consultant qui fonctionne très bien. Vous restez à mes côtés pour écouter la suite d'une vidéo BFM. Dans quelques instants, on va parler de Châteauneuf-du-Pape et de l'Australie.
BFM Business, week-end.
Retour chez Fauchon à Paris pour retrouver Bernard Bucci, que vous l'en pouvez lire quasiment tous les jours dans le Figaro, et qui est venu avec à ses côtés un animal assez étrange, un kangourou. Alors, quoi de neuf en Australie, à l'exception de cette belle équipe de rugby qui nous a passé 59 points il y a quelques semaines?
Eh bien, bon, d'abord, on n'en a pas beaucoup parlé, l'équipe de rugby, puisqu'à l'époque, c'était le... Alors qu'ici, donc, on a beaucoup parlé surtout donc, du match Angleterre, donc, mais en cricket d'Australie, donc, qui est le grand sport national, qui est incompréhensible, hein, donc si pour les Français, d'ailleurs, je ne sais jamais chercher à comprendre.
Je vous donne des cours. Si vous avez deux jours, je vous donnerai les cours.
C'est effectivement, il faut au moins deux jours. Bon, en tout cas, en Australie, on fait du vin. Hein, donc c'est même le cinquième producteur mondial. Ah, donc, il y a trois groupes qui tiennent 90% du marché, c'est-à-dire qu'il y a un peu le fer de lance donc à l'exportation. Mais ces trois groupes, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, donc la forêt des petits producteurs qui sont beaucoup plus intéressants. Et donc je reviens du concours donc, de vin à Victoria, donc, où j'ai pu goûter donc, beaucoup de ces vins. Mais je voudrais d'abord parler des consommateurs australiens, puisqu'en fait, c'est là, il y a toute une jeunesse qui goûte, hein, donc, de vin à peu près de partout, donc très ouverte, d'ailleurs, qui sort beaucoup donc, dans la restauration. Par exemple, le samedi matin, bah, personne ne prend son petit déjeuner chez lui, il va prendre un petit troquet du coin pour pouvoir discuter. Et d'ailleurs, le samedi, il y avait une dégustation donc, chez un caviste. Alors que pendant les Français goûtaient des Beaujolais nouveaux, ben là on goûtait les Beaujolais 2009, donc les crus, hein, donc du Beaujolais.
Donc du vrai vin, vous voulez dire du vrai vin, quoi.
Du vrai vin, ce qui est une super idée. Alors, donc ici, et je peux vous dire qu'en plus ils avaient les bonnes adresses, puisqu'on avait le domaine de Vissou, on avait Pas-Calais, et ça marchait d'ailleurs très bien, puisque je voyais donc plein de jeunes gens, de jeunes femmes acheter ça par caisse de 12.
Est-ce que c'était des jolies jeunes femmes? C'est important quand
absolument,
même.
Absolument, jolies, bon, et surtout je voyais bien qu'elles goûtaient et qu'elles rentraient dans le vin et que les gens goûtaient, échangeaient leurs impressions, non seulement sur les vins français, mais d'à peu près partout. Et je crois que le vrai moteur est là. Et d'ailleurs, les vins français font une belle percée parce que le dollar australien est au plus haut. Donc, ce qui fait que les vins français sont pas chers. Donc, on achetait donc les Beaujolais pas très chers. Donc, c'est vraiment cette consommation donc qui pousse. Alors, par ailleurs, côté production, j'ai eu le temps de faire le tour en quelques jours donc dans les vins de Victoria. Et j'étais très surpris surpris par la haute qualité des blancs, parce qu'on a toujours l'image des chardonnays, quasiment en beurre et en confiture, donc très épais. Et là, on a pris, on a des chardonnays très élégants. Et d'ailleurs, comme j'avais un joker, puisque entre président du jury, j'avais le droit de choisir, donc j'avais à l'aveugle sorti un chardonnay 2003 de toute beauté. Alors quand j'ai commencé à réfléchir, j'ai vu que c'était dans une vallée froide, donc en été, alors que 2003 est aussi chaud qu'en France, en Australie. Ce chardonnay-là pouvait faire la nique à bien des morceaux.
Faire la nique, vous dites, hein, oui. L'expression locale, je suppose.
Absolument, quoi. C'est la vraie expression. En tout cas, une très belle série de blancs. On commence à avoir des très jolis Riesling, de manière étonnante, quelques beaux Gewürztraminer. Je ne savais pas qu'on puisse faire des Gewürztraminer qui tiennent la route en dehors de l'Alsace, parce que quelques-uns en Frioul, mais jusqu'à présent, c'était quand même un cépage qui s'exportait très très mal.
En Allemagne, quand même.
En Allemagne, mais ils ne sont quand même pas du même calibre. En tout cas, là, on commençait vraiment à avoir des choses intéressantes. Alors, les rouges, toujours sur les problèmes donc, d'acide tartrique. Il faut avoir le palais comme un peu blindé pour...
Ça veut dire quoi, c'est un problème? C'est-à-dire qu'ils rajoutent de l'acide tartrique?
Voilà, donc on est... D'ailleurs, ça se fait aussi, même dans certains pays comme la France. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on appelle la religion du pH, c'est-à-dire qu'ils considèrent que le vin manque d'acidité, ben on va rajouter, puisqu'on peut, en matière de vin, donc soit rééquilibrer l'alcool en chaptalisant, soit rééquilibrer l'acidité en ajoutant de l'acide
tartrique. Donc, ça veut dire que les deux techniques sont autorisées, c'est pas illégal.
Alors, en Australie, c'est rigoureusement interdit de chaptaliser. Hein, donc, on dit toujours qu'en Australie, on peut tout faire, pas du tout. Hein, donc, si on peut planter comme on veut. C'est le seul intérêt donc, de l'Australie, irriguer, mais le reste est extrêmement encadré. On peut rajouter de l'acide tartrique, et c'est vrai que les palais européens donc sont assez ont du mal à résister. Donc il y avait d'ailleurs un groupe de jeunes sommeliers qui venaient de France, et je voyais bien que l'acide tartrique avait beaucoup de mal à passer. Et cette révolution n'est pas encore faite. Alors clairement, on a compris que les vins blancs aujourd'hui, donc dans le monde entier, on va vers des vins beaucoup plus élégants, plus frais. Donc on va plus ces vins extrêmement riches, puissants, comme on trouve encore en France, boisés. Mais la révolution n'est pas encore vraiment faite dans les rouges. Même si en Australie, aujourd'hui, le Cabernet est totalement out. Alors qu'ici, il n'y a aucun jeune ne boit. Ce qui est très à la mode, c'est le Pinot Noir. On a, du point de vue des consommateurs, cette sensibilité d'aller vers des vins élégants. Donc, alors, les Cabernets, on en trouve des très vieux, puisque comme c'est invendable, en Australie, on vend des vins plutôt jeunes, donc les deux, trois dernières années. Mais maintenant, on trouve des Cabernets de 50, 10 ans d'âge, puisque il n'y a plus de marché. Pour les Cabernets.
Déjà le prix, vous savez que BFM Business, on parle beaucoup d'économie. Le prix d'une bouteille de vin, de convenable, de bon niveau, ça coûte combien?
C'est à peu près comme en France, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, c'est-à-dire qu'on est, là c'est le dollar australien, mais un dollar australien c'est 0,80 euros, mais on est à peu près, par exemple un brouilly du domaine de Vissous se vendait 22 dollars australiens, donc sur place, ce qui est à peine plus cher que ce qu'on trouve chez les cavistes parisiens. Donc on est sur des prix très compétitifs, et c'est un des moteurs de la consommation en Australie.
Quelques peut-être vignerons australiens que vous avez relevés, ou des bonnes adresses pour les auditeurs de InVino?
Alors d'abord en français, il y a la maison Chapoutier, qui a quand même plusieurs centaines d'hectares en Australie, qui fait des chardonnays, qui fait du Syrah, qu'on peut trouver d'ailleurs dans son magasin à Terre-l'Hermitage. Les autres vins australiens ne sont pas beaucoup importés pour le moment en France. Mais il y a quelques... il faut savoir qu'un quart des vins australiens sont vinifiés par des vinificateurs français. Hein, puisque les jeunes œnologues français, ceux qui ont fait les diplômes nationaux d'œnologue, c'est un de leurs champs ici. Et donc j'ai rencontré partout des œnologues. Quand j'essayais d'attaquer en anglais, je voyais qu'on me répondait en français. Donc c'était un peu dramatique pour mon anglais. Mais en tout cas, on a des propriétés qui sont biodynamiques. Donc il y a d'ailleurs des amis de David.
Gilles Lapalu,
par exemple, qui est à Bourguignon. Donc il fait un très très joli vin. Je suis allé le visiter. Et en biodynamique comme en France, avec des vins, alors là, qui sont en revanche pas tartriqués, qui sont dans la conception française, les rouges, les blancs, qui tiennent vraiment la route.
Merci Bernard Bocci, Indie de BFM. On trouve maintenant Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde, qui reste en France. C'est pas le pays du Pinot Noir. Nous partons, grâce à vous, faire une petite promenade du côté de Châteauneuf-du-Pape.
Et j'ai eu envie un peu de l'air du sud et du soleil de la vallée du Rhône. Alors cette appellation Châteauneuf-du-Pape, elle est emblématique à plus d'un titre. C'est une des appellations les plus connues en France. On a des fois du mal à la situer parce que Châteauneuf, les gens ne pensent pas toujours à la vallée du Rhône. De temps en temps, quand on pose la question aux gens, ils me disent « Tiens, c'est un des bons Bourgognes, ou alors ça serait peut-être pas dans le Bordelais ». Alors, c'est vrai qu'en évoluant, ça ressemble certaines fois à des Pinot Noirs, des vieux Châteauneuf, on a des impressions là. Et quant au pape le plus célèbre qui a donné naissance même à l'entité de cette appellation, c'est le fameux pape Clément, qui est originaire de Pessac, dans un château célèbre classé en Pessac l'Oignan, existe toujours. Alors cette appellation était déjà connue, ce terroir était déjà connu dès l'époque gallo-romaine. C'est vrai que tout ce sillon rhodanien a été arpenté par les légions, par toute cette époque qui a vu déjà la naissance de la viticulture en France. Mais elle a surtout connu son heure de gloire et son développement au moment où la papauté était installée à Avignon, puisque c'est au XIVe siècle, entre 1305 et 1377, que les papes se sont installés et ont créé, développé ce vignoble de proximité d'Avignon, puisqu'on est juste au nord d'Avignon, en plein cœur du département du Vaucluse. Cette appellation de 3200 hectares, ce n'est pas une petite appellation, c'est une appellation communale assez importante en volume, produit essentiellement du vin rouge à 95%, mais un tout petit peu de vin blanc, ce qui est d'ailleurs différent de l'origine, puisque le vignoble était d'abord développé en blanc, c'était un sous-sol très crayeux, très calcaire. D'ailleurs, Châteauneuf-du-Pape, avant de s'appeler Châteauneuf-du-Pape, s'appelait Châteauneuf-le-Calcernier, c'est-à-dire l'origine...
C'est moins sexy quand même.
Oui, mais c'était la chaux que l'on brûlait, enfin la craie que l'on brûlait pour en faire de la chaux, plus exactement. Et c'est simplement, il y a à la fin du 19e siècle de mémoire, qu'un des maires de Châteauneuf de l'époque s'est dit, mais il faut utiliser l'antériorité et l'histoire papale pour faire vivre cette appellation Châteauneuf.
C'était déjà du marketing à l'époque.
Exactement. Hein. C'est une aussi la plus ancienne appellation contrôlée, une des premières. Dans les cinq appellations qui ont généré la création de l'INAO, il y avait Châteauneuf-du-Pape. Il faut dire que le baron Leroy de Boisemarié, propriétaire du château Forcia, était l'une des personnalités avec le sénateur Joseph Capu qui ont créé donc l'INAO et développé les appellations d'origine contrôlée. Alors, pour revenir au type de vin produit et au terroir, d'abord ce terroir, il est célèbre à la fois pour son sol crayeux, mais également pour ses galets de quartz roulés qui sont dans les plus beaux endroits de l'appellation, notamment sur le grand plateau historique. Ce sont des galets qui ont été roulés effectivement par le Rhône, qui sont d'origine alpine et qui permettent d'emmagasiner la chaleur dans la journée et de la restituer la nuit de manière à avoir une régularité de température extrêmement intéressante à la maturité, au cycle de maturité de la vigne. Le cépage principal, c'est le Grenache noir pour les vins rouges et le Grenache blanc pour les vins blancs.
Et le mythe des multi-cépages, là,
c'est... Et il y a 13 cépages, exactement, mon cher Alain Marty. Il y a 13 cépages qui ont droit à cette appellation, parmi lesquels des cépages connus comme le Syrah ou encore le Mourvèdre, par exemple, mais des cépages inconnus comme la Counoise, le Vaccarin, le Muscardin ou encore le Terré noir, qui sont des cépages effectivement beaucoup plus anecdotiques. Mais chacun, alors peu de vignobles malheureusement, possèdent aujourd'hui la plantation des 13 cépages, mais tous sont multicépages, même si certains vignobles, je pense à Rayas par exemple, à certaines cuvées où pratiquement tous ces vins en pur grenache, mais c'est quand même une vignoble qui a la vocation d'avoir cette multiplicité de cépages qui apporte comme autant de touches d'originalité et de complexité au vin.
Combien ça coûte une bouteille de Châteauneuf blanc?
C'est une appellation qui est assez vedette. Et la terre coûte relativement cher aujourd'hui. Hein, presque pas autant qu'en Champagne, mais on est quand même dans le haut du panier en termes de valorisation foncière. En termes de prix des vins, on arrive à trouver des Châteauneuf parmi les cuvées les plus simples autour de 15-20 euros. Et effectivement, il y a un certain nombre de châteaux qui font des cuvées spéciales. Je pense à la cuvée hommage à Jacques Perrin pour Beaucastel ou des domaines comme Henri Bonneau, par exemple, qui font des cuvées aussi particulières qui peuvent valoir plusieurs dizaines d'euros, voire friser les centaines d'euros. Mais globalement, on arrive quand même à trouver des châteaux neufs accessibles.
Et quelques vignerons, peut-être, les bons domaines à ne pas louper, Philippe Aubrac.
Il y en a effectivement beaucoup. D'abord, c'est un vin de saison. Quand il fait un peu frais comme ça,
un vin d'homme. Un vin
chaleureux. Bonneau, j'ai cité, Beaucastel, Lagardine, le Clos des Papes, le Vieux Télégraphe, la Janasse, très très bon domaine, Montredon qui est le plus important avec Beaucastel en surface, le domaine de Beaurenard, ou encore la cuvée du Vatican.
Et ça peut vieillir, Philippe ?
Oui, ça vieillit très bien. Les rouges, ça dépend des millésimes, hein, mais au minimum 10 ans, sans problème au-delà de 20 ans, et certaines davantage encore.
Merci Philippe Aubrac, nous marquons une courte pause pour les infos, et ensuite cap sur l'excellent chef Alain Dutournier et la gastronomie française à l'UNESCO, grâce à qui ? Grâce à Jean-Robert Pitt.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
C'est reparti toujours chez Fauchon à Paris, place de la Madeleine, pour retrouver Jean-Robert Pitt, président de la Société de Géographie et chroniqueur à la Revue du Vin de France. Un autre invité parmi nous, il s'agit de l'excellent chef Alain Dutournier, 2 étoiles au Carré des Feuillants. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Alors Jean-Robert, j'ai envie de dire, enfin, une excellente nouvelle qui vient de l'UNESCO.
Bah non, l'UNESCO nous a donné beaucoup de bonnes nouvelles, a classé un certain nombre de nos monuments et de nos sites au patrimoine matériel, mais jusqu'à maintenant, nous n'avions aucune cuisine, aucun vin n'avait été classé au patrimoine immatériel. Il se trouve que ça fait 3 ans qu'un dossier a été préparé par le biais d'une association qui s'appelle la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires, qui associe des chercheurs, mais aussi beaucoup, beaucoup de professionnels des métiers de bouche, des cuisiniers de toutes catégories, et différents ministères, bien sûr. Et nous avons donc l'État français a déposé un dossier auprès de l'UNESCO il y a maintenant plus d'un an, et l'UNESCO a rendu enfin une réponse favorable. Donc le repas gastronomique des Français est inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ça n'est pas du tout un cri de victoire. Et je regarde David Cobold pour qu'il ne dise pas, ça y est, encore l'arrogance française, ils se croient les meilleurs, alors qu'on mange très 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 bien en Angleterre, évidemment, et que j'espère qu'un jour le steak and kidney pudding sera au patrimoine immatériel de l'humanité.
Moi, j'espère que non.
Donc en tout cas, l'idée, c'était simplement à la fois de reconnaître que c'est un élément du patrimoine français et de la culture des Français, un élément identitaire, que les Français, qui, comme tout le monde le sait, adorent se diviser sur tous les sujets, y compris les sujets qui touchent à leur gastronomie, Bordeaux-Bourgogne par exemple, mais il y a bien d'autres sujets sur lesquels les Français se divisent en politique, football, rugby, Mac, PC, Peugeot, Citroën, etc. Donc c'est le grand sport français. Il y a un sujet sur lequel les Français se rassemblent, c'est l'intérêt que l'on porte à ce qu'on a dans son assiette et dans son verre. Néanmoins, les Français se laissent un peu aller. Parce que, comme vous le savez, les Français ne font plus beaucoup la cuisine, hélas, en particulier en semaine, disant qu'ils n'ont pas le temps, ce qui n'est pas vrai du tout, parce qu'ils ont du temps le week-end, ils n'ont qu'à cuisiner le week-end et puis garder des plats qu'ils font réchauffer dans la semaine. Et en plus, on peut faire de la bonne cuisine, même une omelette ou une purée de pommes de terre ou une soupe, en très peu de temps, et que faire la bonne cuisine, même sans dépenser beaucoup d'argent, c'est un moyen de se faire plaisir et de partager, donc de vivre un moment important dans une famille, avec des amis, au travail, pourquoi pas, et même au restaurant universitaire. J'ai eu à travailler cet hiver sur la cuisine dans les restaurants universitaires et nous avons trouvé des chefs de Resto U qui, pour 1,40€ de coût matière et 5€ de coût total personnel et matériel compris, arrivent à faire des repas de grande qualité. Donc cette reconnaissance par l'UNESCO est aussi une sorte de petite sonnette d'alarme qui va teinter, j'espère, aux oreilles des Français, qui va leur dire, reprenez-vous, vous avez un héritage formidable. Beaucoup d'étrangers honnêtes reconnaissent que ça fait partie du patrimoine français. Donc, allez-y, faites vivre cela, parce que ça va vous rendre joyeux, plus heureux, et vous allez jouer un rôle plutôt favorable pour la paix dans le monde et pour le contact entre les civilisations. Parlons de vin, un tout petit peu. Le vin fait partie du dossier, puisque le repas gastronomique des Français, c'est le repas des jours de fête, où on a toute la succession des plats qu'on associe avec des vins différents, qui peuvent être des vins de haut niveau, mais aussi des vins tout à fait bon marché. On peut très bien faire un repas à plusieurs vins en prenant du muscadet et un petit vin de rouge de Loire ou du Languedoc ou du sud de la vallée du Rhône. Et les Français auraient intérêt à se remettre à boire intelligemment du vin, avec modération, bien entendu. Je dis ce que...
Eh bien, vous anticipez, Jean-Robert.
J'anticipe, mais j'ai découvert un sondage apocalyptique fait par le Crédoc l'année dernière. C'est que à table, il y a 20% de Français qui boivent du vin, et les jours de fête, seulement 40%. C'est dramatique, ça veut dire qu'il y a 60% de Français. Bon, je conçois, nous avons des compatriotes musulmans, ils n'en boivent pas, très bien, en général. Mais 60% des Français ne boivent pas de vin les jours de fête. C'est dramatique. Or, on met les bouteilles de soda marron gazeux sur la table ces jours-là, voire des alcools forts à boire à l'apéritif, au milieu du repas ou en digestif. On sait que beaucoup de jeunes de tout milieu s'alcoolisent très durement le vendredi soir, le samedi soir et parfois d'autres jours de la semaine, qu'on a des cas dramatiques d'alcoolisme chez des jeunes de 15 ans ou de 16 ans. Donc il faut promouvoir intelligemment la culture de la dégustation raisonnable du bon vin, encore une fois qui n'est pas forcément du grand vin très cher et de luxe, et ça fait partie du repas gastronomique des Français. Alors, dernière chose, bon, bien sûr qu'il y a toutes sortes de mesures liées à l'éducation des jeunes Français qui vont être mises en œuvre, je l'espère, au moins par différents organismes et par l'État, mais il y a, c'est très important, un projet de créer quelque part en France un haut lieu culturel et populaire à la gloire de cet élément de notre patrimoine que nous avons appelé Cité de la Gastronomie. Et donc, nous sommes en train de monter ce projet.
Du vin et la gastronomie ou uniquement la gastronomie,
Jean-Pierre ? Non, gastronomie, vin compris, solide et liquide mêlé, métier compris, savoir-faire, connaissances historiques, connaissances culturelles autour de la gastronomie et du vin, art de la table, etc. Et donc, il y a plusieurs villes qui ont manifesté leur intérêt pour accueillir un équipement de ce genre, dont Saint-Denis, la plaine Saint-Denis, Beaune, Lyon, Épernay. Mais il y a une ville où cette cité pourrait voir le jour et qui serait merveilleuse, c'est Paris. Non pas parce que Paris manque d'activités culturelles, mais parce que Paris ne pourrait pas tirer la couverture elle en disant « c'est ma gastronomie ». Paris, c'est le creuset de toutes les gastronomies françaises et mondiales, puisque toutes les idées du monde entier viennent, sont utilisées par les chefs parisiens. Et un lieu magique serait, à deux pas de la maison où nous nous trouvons ici, place de la Concorde, l'hôtel de la Marine, qui est à un endroit somptueux, qui appartient aux Français.
L'appel est lancé là. Merveilleux. Et les marins, vous les mettez où alors ?
Alors les marins s'en vont. Les marins, non. Les marins s'en vont à Ballard, dans un pentagone qui est en train d'être construit. Un marin a osé dire si c'est la cité de la gastronomie, c'est la fin des haricots. Et ben j'imagine, et là je pense à Alain Dutournier, que si c'était la fin des haricots, on pourrait faire une grande fête du cassoulet tous les ans, place de la Concorde, et que ça aurait une certaine allure.
On fait un petit tour de table, Jean-Robert Pitt. Alain Dutournier, une réaction ? Enfin, forcément, c'est magnifique, non ?
Tout ça est très beau. Mais moi, je suis un peu moins pessimiste que les statistiques parce que je travaille et je rencontre beaucoup de trentenaires, des jeunes de 25, on va dire 25 à 35 ans. Et curieusement, je trouve qu'au contraire, tous ces jeunes, quel que soit leur milieu, s'intéressent énormément à ce que l'on mange, ce que l'on boit et sont bien plus futés que leurs parents, qui, eux, se sont laissés bercer par le caddie, la société de
donc
consommation.
Donc, vous êtes positif, vous dites que la jeune génération,
il y a une prise de réaction actuellement par les jeunes.
Ah, mais tant mieux, ça, c'est une bonne nouvelle.
Moi, je vois ça très positivement.
Alain Berger, vous partagez ce sentiment ?
Absolument. Dans le monde entier, on voit que la jeune génération vraiment prend le taureau par les cornes, qui commence à goûter. Effectivement, il y a une génération qui a un peu lâché donc les rênes, mais que je vois partout. Donc, ici, que ce soit en Afrique du Sud, à Londres, on voit vraiment cette jeune génération vraiment à l'œuvre.
Les jeunes salariés des États-Unis ou du Japon boivent un verre de bon vin blanc à l'apéritif facilement dans un bar, alors qu'il y a peu de jeunes Français qui boivent du vin à l'heure de l'apéritif.
À l'exception de ceux qui écoutent une vidéo BFM chaque week-end, évidemment. Philippe Forbrac.
Oui, d'abord merci Jean-Robert Pitt d'avoir mené à bien cette mission, ça nous réjouit.
Ah, il bosse en temps, oui.
Exactement. D'abord, ce qui est intéressant, c'est ce qui a été précisé, c'est-à-dire que ce n'est pas la gastronomie française qui a été classée, c'est le repas gastronomique des Français, c'est-à-dire une démarche domestique, non personnel, élitiste. Non élitiste, accessible surtout. Parce que la gastronomie, nous on y vit, on sent toute cette proximité, cet échange que l'on a et ce partage, mais en même temps il y a un côté inaccessible, ne serait-ce que financièrement parlant, par rapport aux grands restaurants.
Et c'est un rituel social.
Exactement. Tout, ça, et c'est un partage.
On s'assoit à une table, exactement. Et on partage.
Et on s'assoit. Alain Dutournier a raison. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits où on mange debout. On mange dans la rue, etc.
Il vaut mieux manger debout bien que manger assis mal.
Certes. Enfin, mais là, en plus, on s'assoit. Et si on mange bien assis, on apprécie d'autant plus.
David,
on prend plus de temps. Alors, juste pour rebondir sur la dimension du vin, effectivement, le vin est là, présent, à table, en association. On réfléchit. Et puis en France, on est quand même le seul pays dans lequel on parle déjà de ce que l'on va manger. Quand on est à table, on parle de ce que l'on mange. Et quand on finit, on parle de ce qu'on va faire la prochaine fois à table.
Le prochain dîner,
c'est extraordinaire.
David Cobold, c'est quoi ? C'est de l'arrogance à la française ou pas ça ? Alors,
je voudrais vous lire ce que le responsable de la division du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO a dit. Des inscriptions sur la liste. La liste représentative ne vise pas à récompenser les meilleures expressions culturelles du monde. La seule chose que l'on prend en compte, c'est l'importance subjective de telle ou telle pratique pour la communauté qui le maintient en vie. Elle regrette l'instrumentalisation politique à des fins nationalistes. Donc moi, j'ai une proposition à faire, c'est qu'on inscrive au patrimoine immatériel de l'UNESCO la prétention française une fois pour toutes. Comme ça, on n'a pas à faire d'autres
David
dossiers.
David Cobold, c'est votre job. Alain Dutournier, on parle un peu de...
Pourtant, j'ai parlé du steak and kidney
pie. Vous avez été sympa, poli, tout ça, là. C'est... Ah oui, tirez les premiers, messieurs les Anglais. Alain Dutournier, on parle un petit peu de vous, côté vin, parce que tous les chefs n'apprécient pas le vin, mais vous êtes un dingue de vin. Vous avez même été élu meilleur restaurateur sommelier il y a quelques années, c'est ça ?
Oui, mais je n'ai aucun mérite. Je suis né dans une petite auberge où il y avait une cave fort sympathique. Et auberge, j'avais une vigne où j'ai ma vieille maison maintenant avec un
pressoir. L'auberge est dans les Landes, quoi.
Oui, c'est dans le Sud-Adour, entre Bayonne et Dax. Et j'ai toujours fait, depuis que je suis né, j'ai fait mon petit vin blanc, mon petit vin rouge que je ne vends pas, mais que je bois et que je partage avec les gens que j'aime bien.
Et vous avez également investi dans une...
C'est remarquable. Mais ça trompe son monde. Il m'a servi un jour ça à l'aveugle, incapable de trouver, évidemment.
Et vous avez investi dans les caves de Marly aussi, c'est ça ?
Oui, donc c'est une vieille histoire où avec des amis, nous n'avions pas suffisamment de place pour stocker nos vins et les faire vieillir. On a acheté des carrières à l'époque, c'était en 1980. Et puis depuis 6 ans, j'ai tout repris pour faire une vente sérieuse de 1500 références de vins au quotidien, donc avec des dégustations tous les samedis, et on fonctionne sur des vins de niche, sur aussi des vins un peu curieux par rapport au contact que j'ai avec des vignerons depuis de nombreuses années, donc c'est quelque chose un peu à part, un peu en dehors des gros marchés du vin.
Et donc pour terminer, donc la bonne recette, c'est une tradition, donc ce sont des spéciales en crème d'huître, c'est ça ?
Oui, c'est juste une recette qui correspond à la saison. Il faut manger, tout le monde veut manger des huîtres pendant les vacances de juillet-août, mais je pense que l'idéal, c'est quand même maintenant. Donc, si on a la chance d'acheter quelques belles huîtres spéciales, qu'elles soient de... Bon, moi, je prêcherai pour le bassin d'Arcachon, régionalement, parce que j'ai des amis qui sont ostréiculteurs là-bas, mais on peut prendre aussi du Marais d'Oléron ou d'ailleurs, donc des spéciales bien charnues, avec une 12,5 pour 4 personnes. On peut préparer, donc on poche les 18 huîtres dans le rot carrément, avec juste un filet de vin blanc sec. Après ça, on fait un petit bouillon avec un peu de cette eau de cuisson, avec juste un peu de céleri, un petit peu d'échalote et de la crème. Ça permet d'avoir une base qui peut rappeler le bilibi des moules. Donc on le mixe avec 6 huîtres seulement. On garde 3 huîtres par personne pour poser au fond de l'assiette. On laisse refroidir et on sert cette petite crème d'huître dessus.
Merci Alain Dornier, merci également à vous Jean-Bert Pitt. Nous allons marquer une dernière pause, David Cobol. Et après on partira parler de l'actualité du vin et le Vino Quiz qui va permettre à l'un d'entre vous de gagner un exemplaire du Guide des grands amateurs de vin 2011, édité au Cherche Midi.
Alain Marty sur BFM Business.
Retour chez Fauchon à Paris pour retrouver David Cobol, et oui, le cofondateur du site Echevino, qui lui propose une rencontre avec un cépage qui nous vient tout droit de Roumanie, un très joli pays, David.
Oui, et il s'agit d'une jeune dame, une jeune fille noire.
Je vous reconnais, vous là.
Hein, vous allez voir ça. Le Feteașcă Neagră. Alors, je vais vous parler de cette variété roumaine. On le sait assez peu, donc un peu de perspective sur la Roumanie. C'est un pays important sur le plan viticulturel et probablement beaucoup plus ancienne sur le plan de la production du vin que n'est la France, puisque la vigne a vraisemblablement traversé la mer Noire venant des pays du Caucase. Donc c'est assez logique que la vigne ait été implantée bien avant que les Grecs ou les Romains n'implantent de la vigne dans le sud de la France. Ils donnent parfois à pas mal de leurs cépages autochtones un très joli préfixe de Feteașcă, ce qui signifie « jeune fille ». Alors ensuite, on a le blanche, la noire, la rousse, je sais pas, il y a des variétés de jeunes filles, on choisit. Et là, j'ai choisi la noire, la Feteașcă Neagră, cette semaine. Et on le trouve dans différentes régions, mais les grosses régions d'implantation, c'est le nord et l'est du pays, c'est-à-dire la Moldavie, et aussi toute la partie qui tourne autour des montagnes Carpates, qui s'appelle Muntenia et Dealul Mare. Il y a des sous-régions apparemment bien adaptées ou particulièrement adaptées à ce cépage. Je vais vous épargner ma prononciation et leur nom, parce que ça va vous raser d'abord, et moi je vais écorcher les noms.
Alain Dutourier, notre invité, le chef du Carré des Feuillants, connaît très bien roumain, donc vous leur prendrez.
C'est une langue latine, de toute façon.
C'est une langue latine, c'est une très très belle langue.
Pas si loin de Dax. Hein.
Et je vais faire un voyage l'année prochaine, donc je vais revenir en parlant couramment le roumain. Alors, on l'utilise parfois seul, mais plus souvent en assemblage avec le Babeașcă Neagră, le Cabernet Sauvignon et le Merlot, que nous connaissons bien, parce qu'il y a aussi des cépages français à implanter. Il y a d'ailleurs des viticulteurs français qui sont installés, je pense notamment au Comte Peraldi, en Corse, qui fait des bons vins.
C'est un très bon
vin. J'ai eu l'occasion
d'ailleurs
de goûter d'ailleurs chez Alain Dutournier, oui, d'origine Ajaccio. Et son épouse est roumaine, et il fait de très bons vins là-bas. Alors, comme pour toutes les vieilles variétés indigènes, Il y a beaucoup de synonymies en roumanais parce que c'est un ancien cépage, donc il y a beaucoup de noms. Une fois de plus, je vais vous épargner ma prononciation roumaine, mais je ne peux pas résister quand même à un qui est très très joli, qui signifie queue d'hirondelle, la Coada Rindunici.
On aurait quasiment deviné, David.
Voilà. Oui. Alors, c'est pas très très répandu comme cépage. Hein. C'est plutôt l'aristocrate des cépages rouges romains parce que ça représente moins de 3% des surfaces en rouge. Et c'est un cépage qui donne beaucoup de couleurs, de saveurs plutôt intenses. C'est tannique, autrement dit, c'est un cépage de garde. C'est pour ça que souvent on l'arrondit en l'assemblant avec du merlot ou autre chose. Et je vais vous en dire beaucoup plus peut-être d'ici quelques mois parce que je projette un voyage au mois de mai prochain.
Merci David. Le Vidéoquiz, Philippe Forbach d'une vidéo BFM. C'est parti.
Je vous en rappelle le principe. À chaque semaine, vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide des grands amateurs de vin 2011, édité au Cherche Midi. Un guide qui répond à la question que se posent tous les amateurs. Quel est le moment optimum pour déguster les vins qui sommeillent dans ma cave ? Alors, la semaine dernière, rappelez-vous, la question était dans quelle appellation se situe le château Larrivé-Aubrion ? Ça paraissait assez simple. Hein. Réponse A, proposée Pessac-Léognan. B, Muscadet. Ou réponse C, Hermitage. La bonne réponse était bien entendu la réponse A, Pessac-Léognan. Alors cette semaine, concentrez-vous à une nouvelle question, aussi difficile à mon avis. Dans quelle région se situe l'appellation Châteauneuf-du-Pape ?
Ah.
N'est-ce pas ? Réponse A, la vallée du Rhône. Réponse B, le Roussillon. Ou réponse C, le Bordelais.
C'est compliqué, hein, Alain Dutournier, hein, n'est-ce pas ? Bon, on ne peut pas les aider.
Là, je crois que c'est le B.A.B.A., mais bon.
Ben on nous a épargné le Muscadet. Non,
c'est même l'ABC.
Le Clément est trompeur, quand même.
Ah oui, c'est vrai.
Certes. Alors, en tout cas, pour répondre et gagner un exemplaire, vous le souhaitez, du guide des grands amateurs de vin 2011, rendez-vous dès maintenant sur notre site, le www.bfmradio.fr, dans la rubrique service et jeux concours. Le gagnant sera tiré au sort parmi les nombreuses bonnes réponses.
Merci Philippe Forbach. David, on arrive sur l'actualité. Et l'actualité du vin à Paris, c'est la semaine prochaine, c'est ici, c'est avec nous.
Oui, il faut se dépêcher parce que le 15 décembre, mercredi prochain, entre 16 et 18 heures, à la cave Fauchon à Paris, vous pouvez assister à l'enregistrement de deux émissions. Vous avez deux pour le prix d'un, c'est quand même extraordinaire.
Sachant que c'est gratuit.
Et en plus, c'est gratuit. Et vous pourrez boire un coup après avec beaucoup de modération comme d'habitude. Mais il faut juste prévenir avant au 01 42 89 13 22.
Et les horaires donc David, entre 16h et 19h, on va dire quoi ?
16 et 18h et après s'il y a affinité.
Alors il se passe des choses sympathiques sur le thème du vin du côté de Lyon.
Ah, toujours, oui, par le Wine Business Club qui a lieu au Sofitel Lyon-Bellecour le mardi 18 janvier à la prochaine réunion avec une omelette exceptionnelle entre économie, gastronomie et grand cru. Vous savez que pour faire une omelette, il faut casser des œufs.
Mais ça donne envie, David.
Oui. Non, mais c'est formidable. Et vous pouvez
c'est
poursuivre.
C'est curé aux laitances de carpe, selon Bria Sabarin.
Ah, non, ça, je ne le connaissais pas.
C'est une merveille.
Alors, suivez les différentes soirées. Paris, Reims, Marseille, Toulouse. Oh, Toulouse, Montauban. Oui, il vient de Montauban. Bordeaux, Genève et Monte-Carlo. Directement sur le site www.winebusinessclub.com.
Merci David. Et une vidéo BFM, c'est à la radio. Vous l'écoutez actuellement, mais c'est également à la télé chaque week-end. Je vous retrouve en compagnie de mes complices Philippe Forbach et Frédéric Anton, le chef 3 macarons du Pré-Catelan. Donc pour connaître les horaires, www.bfmtv.fr. Et le week-end prochain, nous parlerons d'une appellation très sympa qui offre un excellent rapport qualité-prix, les Coteaux du Génois. David Cobol, on parle de votre sujet fétiche et chouchou, le vin bio, les bouteilles bio, tout est bio chez vous.
On parle beaucoup de bio à cette antenne, mais pas moi spécialement, ou pour être un tout petit peu réservé ou sceptique sur certaines choses. Mais j'ai voulu savoir, j'ai voulu quand même, un peu comme le père Joseph Staline, je me suis dit, le bio, combien de divisions ? Eh bien, je sais maintenant, parce que je suis allé à une conférence de presse fort bien organisée, d'ailleurs, par les vignerons bio du sud de la France, Languedoc, Provence et aussi Aquitaine. Et je sais maintenant que la part de la viticulture française consacrée au vin bio ou en conversion, je reviendrai dessus, avoisine maintenant les 5%. Je rappelle que le gouvernement a fixé un projet d'atteindre les 6% pour 2012. Vraisemblablement, ça va être atteint, voire dépassé. Sur ces 5%, la moitié sont en reconversion, c'est-à-dire qu'il y a une période, Philippe Forbach, c'est 3 ans, non ?
3 ans minimum.
3 ans où il faut faire ses preuves et pas mettre d'herbicides, etc.
Le cahier des charges, c'est quoi, David ? Parce que quelqu'un
a un cahier des charges, avant, donc, c'est de ne mettre aucun produit de synthèse, herbicide, produit de traitement phytosanitaire. On a droit seulement à mettre du cuivre, du soufre, et ça c'est parfois un problème parce qu'on peut en abuser. Sur la vigne, il n'y a pas de vin bio,
d'accord.
Il y a des vins issus de raisins.
Donc ça va quand même dans le bon sens d'un point de vue technique. On met moins de pesticides.
C'est plutôt une bonne chose dans le fond.
On utilise des produits naturels.
De grande qualité.
Mais ça ne préjuge absolument pas de la qualité du vin.
Exactement. C'est le vignoble.
et les raisins qui sont bio.
Donc, on en est à 5% et c'est une augmentation assez rapide. Quelques chiffres quand même pour vous donner une idée. On arrive à près de 40 000 hectares en bio ou en conversion bio aujourd'hui. Le vignoble français fait quoi ? 800 000 hectares à peu près. Donc, on est vraiment à 5%. Si la majorité de ces nouveaux convertis restent en bio, on va effectivement atteindre ou dépasser cet objectif de 6%. Mais il y a deux, trois points qu'il faut quand même souligner. D'abord, le prix, j'ai noté avec intérêt que une des fortes motivations pour passer en bio, c'est pas nécessairement la grande croyance écologique, mais c'est le fric. C'est quand même un moteur important, l'argent.
C'est respectable, David.
C'est tout à fait respectable parce que les vignerons qui gagnent pas leur vie, il faut qu'ils trouvent une solution. Et aujourd'hui, le bio peut être une solution. Le prix du vrac à Bordeaux ou en Côte-du-Rhône générique, par exemple, c'est le double.
Pour à Bordeaux ou en Côte-du-Rhône ?
Pour les deux.
D'accord.
Pour les deux appellations basiques. Côte-du-Rhône rouge et Bordeaux rouge ou blanc. Bordeaux, Bordeaux supérieur. On gagne deux fois plus au tonneau pour un vin en bio qu'un vin en conventionnel. Donc ça, c'est une incitation. Auquel il faut rajouter des incitations, des aides. Il y a des aides économiques, des accompagnements et des aides financières pour la conversion. Donc il y a une carotte qui est importante de mettre en place.
Beaucoup d'excellents vignobles ne revendiquent absolument rien.
Non.
Et par contre pratiquent une viticulture raisonnée et depuis longtemps et n'en parlent pas.
Sans l'utiliser comme pub, vous voulez dire.
Oui, donc je pense qu'il y a beaucoup plus de 6% maintenant parce que on rencontre quand même dans le vignoble des gens très sérieux qui depuis longtemps pratiquent quelque chose de très, très respectable.
Bien sûr, je pense qu'il y a énormément de gens qui respectent énormément leur terre et de plus en plus, et ça va bientôt être une majorité. Le fait d'être certifié en bio, c'est autre chose. C'est une labellisation, sachant que cette labellisation est viable pour la France, mais il n'y a pas de label européen, puisque les négociations pour un accord européen ont échoué pour deux raisons. D'abord, les Allemands et les Autrichiens ne voulaient pas abaisser le taux de SO2. Les Français et les Italiens ne voulaient pas les augmenter. Donc il y a une espèce de blocage des deux pôles. Il faut savoir aussi que le Organic Wine aux États-Unis, qui est le label bio américain, est tout à fait différent et autrement plus rigoureux dans un certain mesure.
Donc plus strict, vous voulez dire, dans le cahier
oui,
des charges.
Ce qui pose un problème pour les exportateurs, parce qu'ils doivent avoir une double certification en France et ensuite une certification pour les imports aux États-Unis. Alors c'est intéressant de noter aussi que 43% des vins bio sont exportés. C'est plus que la moyenne des exportations des vins français. En revanche, seulement 5% sont vendus en grande distribution. Or que 55% des vins en France sont vendus en grande distribution.
Et le prix des vins, vous en parlez tout à l'heure, ils sont quoi ? Ils sont 20% plus
alors,
chers ?
Alors, ils sont plus chers. Je n'ai pas de chiffres pour donner exactement l'écart, mais ils sont significativement plus chers, ce qui constitue probablement un des freins pour l'achat en grande distribution.
Un petit commentaire peut-être rapide avant le dernier sujet de David, de Bernard Murchi.
Oui, alors,
6%, d'abord, 5-6%, vous êtes d'accord avec les chiffres de David ?
Absolument, je confirme le chiffre. D'ailleurs, là, il y a une vraie sensibilité du consommateur. Toute la grande distribution cherche donc des vins bio, d'où d'ailleurs la surcote des prix, mais n'en trouve pas. Donc il y a quand même...
En tout cas en quantité.
En quantité. Ouais. Donc effectivement, beaucoup sont exportés. Alors, pour revenir donc sur cette notion de bio, bon, je trouve qu'il y a un domaine à Bordeaux qui y a écrit en bio depuis 1613, puisque le domaine a été créé en 1613. Et jamais personne n'a imaginé de faire autre chose que de labourer, donc ici, on n'a jamais imaginé de mettre un produit de synthèse donc dans la vigne. Et je crois que c'est la plus belle des définitions. Là, on revient en fait d'un autre excès qui était effectivement, on était parti dans beaucoup de chimie de synthèse. Et donc, beaucoup de gens qui revendiquent, c'est des gens qui étaient dans l'excès inverse.
David Cobol, et pour terminer, un livre qui vous a ému sur le sujet bio de votre enfance.
Qui m'a plu. Alors, c'est un sous-segment de la globale bio. Les vignerons nature. Alors moi, je récuse ce terme. Je trouve que le vin naturel, ça veut rien dire. Enfin, c'est le vin naturel, c'est du vinaigre, probablement. Mais en tout cas, c'est une tendance, c'est une notion de mettre le moins de rajout possible dans un vin pendant sa vinification.
Et comment s'appelle ce livre, David, alors ?
Alors, Vigneron Nature de la Loire, c'est une très jolie série de portraits. C'est assez efficace sur le plan de l'organisation parce que vous pourrez organiser un parcours. C'est organisé par sous-zone, Vouvray, Mont-Louis, Chinon, Bourgueil, etc. C'est écrit par Laetitia Laure et Hervé Guillaume. C'est très simple, c'est très didactique.
Ça explique
bien ce que c'est. Ça coûte 20 euros aux éditions Le Loup du Lac.
Merci. David Cobol de ce numéro du BFM est maintenant terminé. On se retrouve toujours chez Fauchon samedi à 10h et dimanche à 16h. D'ici là, gardez le sourire à l'écoute de BFM Business et surtout respectez la plus grande des modérations.